Vous écoutez France Culture.
Amphi, la série estudiantine de Martin Kénéen et Julie Béressi. J'ai fait Harvard au palais de Tokyo.
Les Skulls sont toujours le dessus.
Les Skulls?
Oui, les Skulls, ils contrôlent tout ce qu'on fait.
Seule l'élite est admise à entrer.
Si c'est élitiste et secret, ça peut pas être bon.
Skull and Bones, la fraternité élitiste et secrète de Yale, à laquelle ont appartenu les Bush, père et fils, ou encore John Kerry, eh bien c'est la plus célèbre, le plus célèbre des fameux Final Clubs, ces réseaux sociaux de l'ombre qui incarnent le côté obscur des vénérables facs américaines de la Ivy League, la Ligue du Lierre. Et c'est dans les ténèbres de leur feuillage persistant que Grand Amphi achève aujourd'hui sa semaine à Harvard. C'est que si France Culture a 50 ans, les Final Clubs d'Harvard en ont au moins le double. Et pour eux aussi, ça ne fait que commencer. Alors, levons un coin de la régalia, la robe académique noire et cramoisie des étudiants de l'université la plus riche du monde et qui compte aujourd'hui, parmi ses alumni, ses anciens, le plus de grands patrons. Et ce, avec la complicité de la docteure en sociologie Stéphanie Grousset-Charrière, auteure de La face cachée de Harvard, la socialisation des élites dans les sociétés secrètes étudiantes, une enquête de terrain publiée à la Documentation française. Bonjour.
Bonjour à vous.
Stéphanie Grousset-Charrière, il existe, on le sait, toute une nébuleuse de confréries étudiantes aux États-Unis, que ce soit les associations sportives comme les Harvard Crimson ou encore les fameuses fraternités et sororités du système grec, par exemple les Delta Gamma, les Kappa Alpha Theta. Mais alors, en quoi les Final Clubs sont-ils singuliers ?
Les Final Clubs sont singuliers dans le sens où ils sont exclusivement harvardiens déjà, contrairement aux fraternités et sororités du système grec qui forment des réseaux nationaux. Donc de fac en fac, on retrouve des chapitres, etc. Ce qui n'est pas le cas des Final Clubs qui restent autocéphales, autogérés et qui restent surtout encore très sélectifs, notamment sur la question du genre, puisque ces sociétés-là sont exclusivement masculines, en tout cas pour les plus anciennes d'entre elles. Aucune société secrète de Harvard, aucun Final Club, n'a accepté l'entrée des femmes en leur sein.
Et donc même au-delà du fait qu'elles sont seulement harvardiennes, ces sociétés secrètes, elles sont même autonomes à l'intérieur de l'université d'Harvard, puisque en particulier, précisément, ça s'est passé dans les années 70, cette rupture, ils refusaient la mixité.
Précisément. Ces clubs appartenaient autrefois à l'université et dans les années 70, quand l'université de Harvard s'est ralliée à son acolyte féminine Radcliffe, la condition ultime pour que cela puisse s'opérer était la mixité absolue, c'est-à-dire pas seulement au niveau de l'enseignement, mais aussi dans les logements et aussi dans les activités extrascolaires, clubs sociaux inclus. Toutes les activités extrascolaires, hormis deux exceptions qui étaient tolérées pour les clubs sportifs et les chorales, tout autre organisme étudiant s'est plié à cette règle de la mixité, hormis les Final Clubs, qui ont donc entamé à ce moment-là un bras de fer avec les autorités universitaires. Et il y a eu ce que je pense être un gros coup de bluff de la part des autorités de l'époque, qui a été de leur dire, eh bien, si vous persistez, vous n'aurez plus qu'à vous privatiser, nous vous couperons les vivres. Mais quand on a des clubs qui rassemblent quelques-unes des plus grandes fortunes de Nouvelle-Angleterre, c'est une menace un petit peu dérisoire, finalement.
Alors, quand on parle de ces clubs, ils sont méconnus, ils restent dans l'ombre volontairement. Vous avez passé patiemment 3 ans et demi sur le campus d'Harvard à travailler, à enseigner le français, mais aussi à approcher donc ces sociétés secrètes étudiantes. Quels sont les noms de ces fameux 8 Final Clubs harvardiens ?
Alors, les noms, je peux vous les citer, The Owl, the Delphic, The Phoenix, The Spy, etc., The Porcelain, qui est le club le plus ancien, The AD. Cela dit, dans mon ouvrage que vous avez cité précédemment, La face cachée de Harvard, je les évoque rapidement en introduction, mais ensuite je ne les cite plus, j'utilise des pseudonymes volontairement par déontologie, et là aussi, si vous voulez, je ne rentrerai pas dans le détail des spécificités par club.
Ils sont tellement influents, vous avez peut-être un peu peur des représailles, même de l'autre côté de l'Atlantique. À l'entrée de ces clubs, Stéphanie Grosset-Charrière, des clubs de gentlemen dominateurs, se tiennent les rites d'initiation. J'imagine qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec les rites initiatiques orphiques de la Grèce antique, où il s'agissait d'un régime végétarien avec abstinence et chasteté. Je pense que ce n'est pas vraiment le programme. Mais justement, pour vous qui les avez approchés, dites-moi, est-ce qu'il s'agit uniquement de bizutage, de hazing, comme on dit aux États-Unis, où on oblige les néophytes à avaler de la pâtée pour chat, par exemple?
Alors, je peux vous parler de ça sans difficulté, puisque je n'ai pas peur des représailles outre-Atlantique. C'est simplement par déontologie sociologique que je m'abstiens de donner des noms. Ils refusent le terme de hazing, c'est-à-dire de bizutage. Les rites initiatiques auxquels vous faites référence ont lieu à l'issue d'un très long processus de sélection qui s'échelonne sur toute la durée du premier semestre, et qui est un long processus éliminatoire qui consiste en des invitations anonymes avec des petits cartons d'invitation très formels glissés sous la porte que les futurs impétrants retrouvent un matin pour assister soit à un cocktail, une cérémonie, un dîner habillé en smoking. Et puis, à l'issue de ce long processus de sélection, où il y a au départ 200 personnes, il n'y en a plus qu'une vingtaine qui, eux, sont soumis à des rites initiatiques qui ressemblent effectivement à des bizutages. No gods, no masters, know how to live with magnificent disasters. The shiniest cloaks, most coveted daggers. No limits. Dangerous arcane tools. No access to soaking our success pools. In our secret society, we find freedom through slavery. Alors cette semaine, dans Grand Amphi, Alice Jardine, la directrice du programme d'été parisien de Harvard, nous vantait un nouveau visage pour cette université, la première du monde, la plus riche, etc., qui serait faite désormais d'étudiants étrangers, d'étudiants issus des milieux modestes, avec par exemple la création d'une bourse pour les rappeurs, les meilleurs rappeurs en herbe des États-Unis. Mais au fond, pour vous, Stéphanie Grosset-Charrière, qu'est-ce qu'ils nous disent ces Final Clubs, ces sociétés secrètes qu'on entendait chanter par le groupe américain NoFX, là? Qu'est-ce qu'ils nous disent de la fac d'Harvard et de ses prétentions, de ses ambitions égalitaire, méritocratique? Les ambitions égalitaires et méritocratiques que prônent les dirigeants de Harvard sont absolument fondées, dans le sens où il y a de très nombreuses bourses allouées aux étudiants et il y a effectivement cette volonté de rendre toujours plus ouverte et plus hétéroclite l'université sur la base de l'excellence académique principalement. Cependant, indéniablement, c'est une université qui reste particulièrement attractive pour les élites, et pas seulement les élites intellectuelles, bien sûr. Et on va retrouver, en fait, une certaine forme d'entre-soi qui se manifeste pour certaines formes d'élite sociale à l'intérieur de ces sociétés secrètes. C'est-à-dire que c'est un petit peu une élite dans les élites académiques, une élite sociale dans les élites.
Merci beaucoup Stéphanie Grosset-Charrière. France Culture à 50 ans, France Culture est en direct en public du Palais de Tokyo. France Culture, ce n'est pas fait pour l'élite, c'est fait pour tous. Alors un peu comme l'université d'Harvard, il vaut peut-être mieux entrer dans une société secrète pour pénétrer cette radio elle aussi. Grand Amphi, c'est déjà fini. Merci beaucoup. Donc Stéphanie Grosset-Charrière, je rappelle que vous êtes l'auteur de La face cachée de Harvard, publié à la Documentation française et qui sort en poche dans quelques semaines, le 9 octobre précisément. Je rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs, à nos spectatrices, à nos spectateurs, que Harvard sera aussi dans Ville Monde sur France Culture dans un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Charlotte Roux diffusé les dimanches 22 et 29 septembre à 15h sur France Culture bien sûr. À la technique aujourd'hui, c'était Andreas Jaffré. Grand Amphi vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série. Et vous serez privé donc ce matin de la petite et la grande histoire de la radio. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Culture Monde de Florian Delorme.